Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffier-Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Auditeurs, merci de choisir cette station, votre station préférée. Au cours de nombreux voyages dans les différents villages Odjokuru, j'ai rencontré un peuple formidable et capable de raconter l'histoire du passé de leurs ancêtres. Malheureusement, c'est souvent au cours des fêtes traditionnelles. J'avoue que je ne connais rien de ce peuple Odjokuru. Kaka, Orba, Kosru, Akrajo, Ngati, tous ces villages ont été visités. Mais ce que j'ai ramené ne peut pas me permettre de parler vraiment des Odjokuru. Aujourd'hui, nous sommes chez le professeur Alou Kwame René. Nous allons profiter de son savoir pour comprendre un peu ce peuple Odjokuru. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On va parler du peuple Odjokuru.
Oui, c'est exact. Alors, ce peuple s'appelle Odjokuru, mais évidemment, du fait de quelques déformations de transcription, en français, on dit Odjokuru en général. Maintenant, leur pays s'appelle l'Odjokuru et leur langue s'appelle Mojokuru. Donc, il y a un peu trois petites appellations différentes. Odjokuru pour le peuple, l'Odjokuru pour l'espace, pour le territoire et Mojokuru pour la langue.
C'est cette langue-là qui est parlée avant la pénétration française parce que Dabo aussi a été un petit port. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, avant la pénétration française, comment ce peuple-là s'est retrouvé là?
Bon, alors, le peuple Odjokuru est issu d'un brassage. Il y a eu d'abord deux groupes qui se sont retrouvés sur cet espace-là. On a les Ogbougbou dont je vous ai parlé, qui sont d'extraction d'Idakru. Et puis, vous avez les Abrem, qui sont d'origine Aladjan, comme je vous l'ai dit, mais qui se sont installés à Akradio. Donc, c'est la rencontre de ceux-là, des Abrem et des Bourbourou, qui sont d'origine Krou, donc des Akan et des Krou. Leur rencontre s'est faite dans un esprit de brassage. Et de leur lien est né comme un peuple nouveau, qu'on va appeler Oborou. Et c'est autour de ce noyau Oborou-là que, comme par cercle concentrique, différents autres groupes vont venir s'installer autour des Oborou sur cet espace-là. Et c'est ainsi que le peuple Odjokuru est né. Donc le peuple Odjokuru est né d'un brassage d'éléments d'origine Krou, le Ogbougbou, d'éléments d'origine Akan, d'extraction Aladjan ou si vous voulez Abrem, qui vont s'installer principalement à Akradio. Et c'est autour de ce groupe Oborou-là, né de ce brassage, que le peuple Odjokuru va surgir.
Et quand les ancêtres Odjokuru arrivaient là, est-ce qu'ils avaient déjà pour activité principale la pêche?
Les Odjokuru ne pratiquent pas seulement la pêche, mais aussi ils sont très agriculteurs. Parce que dans la zone de Tupa, vous avez la lagune. D'ailleurs, ceux qui se sont installés vers Tupa étaient d'extraction Otile. Parce que les Otile aussi sont passés par là, dans la zone de Tupa. Voilà. Et donc, certains aussi se sont intégrés à cet espace du Odjokuru, du pays Odjokuru. Donc, ils faisaient les deux activités, et la pêche et l'agriculture, mais ils étaient beaucoup plus agriculteurs que pêcheurs. Mais ils pratiquaient les deux types d'économie. Les deux types d'économie étaient complémentaires.
Contrairement au peuple Aïzi, qui est presque divisé en trois groupes, chaque groupe a sa langue, les Odjokuru, comme vous le dites, sont venus. Deux groupes différents se sont rencontrés. Est-ce qu'ils parlent la même langue?
Ils parlent tous la même langue, qui est le Mojokuru. Mais il y a un auteur, un linguiste, qui a étudié la langue Mojokuru, qui est la langue des Odjokuru. Et il s'est rendu compte que la langue Mojokuru, ou la langue des Odjokuru, a curieusement près de 40% de liens avec les langues Gouan, avec le groupe Gouan dont je vous ai parlé. Mais cela s'explique. Je vous ai dit que, par exemple, les Abrem sont d'origine Gouan. Voilà, donc cela s'explique. Mais il y a aussi quand même une pénétration d'éléments d'origine Krou, donc des expressions, des mots d'origine Krou, qui se sont glisser dans la langue. Mais en général, le Odjokuru, la langue des Odjokuru, est classée parmi les langues Kwa et non parmi les langues Krou.
Les Odjokuru peuvent se considérer comme des Akans?
Bon, c'est l'élément d'expression culturelle à Caen qui domine, mais on ne peut pas non plus nier les éléments d'expression Kourou. Parce que chez eux, l'un des éléments de l'expression culturelle Kourou, c'est la pêche au filet. Mais il faut savoir qu'en fait, la pêche au filet, les Kourou eux-mêmes détiennent cela des pygmées. Je veux parler des négris. Je ne parle pas des pygmées esprits. Hein. Je parle des hommes pygmées négris qui sont des hommes qui sont de très petite taille, comme on en trouve en Afrique centrale et équatoriale.
Un peu ahoumé avec les...
Voilà, comme les gbans. Qu'on appelle généralement les gagous, mais eux-mêmes ils s'appellent gbans. Et la tradition estime que les gbans ou gagous sont vraiment les descendants directs de ces pygmées ou négris. Mais ceux-là aussi, en fait, étaient dans toutes les zones forestières de la Côte d'Ivoire. C'est eux les premiers habitants de la forêt. Les grands noirs, ceux qu'on appelle les grands noirs, sont venus les trouver et s'ajouter à eux. Les grands noirs qu'on appelle les mélano-africains sont venus s'ajouter à ces négris qui sont vraiment les premiers habitants de la forêt. Si bien que, en pays Oyukuru, on pratique la chasse au filet. Vraiment une expression culturelle Kourou. Et par exemple, la façon dont l'épagne fait à partir de l'écorce de l'arbre que les bétés appellent tapa. Et aussi, ils font cela. C'est une expression culturelle Kourou. Mais faire cela aussi, les Akans connaissent ça. Les Akans appellent ça, les Baoul appellent ça Beaufoin. Les Agnès appellent Beaufoin. Et les Achantiers appellent ça Tchentchen. Donc, c'est connu. Mais eux, la façon dont le coloris se fait là, c'est la façon dont les Kourou le font. Donc, chez les Adjou Kourou, il y a les deux expressions culturelles qui viennent, qui tiennent justement de leurs ancêtres, qui sont soit d'extraction Akans, soit d'extraction Kourou. Donc, il y a les deux éléments qui se côtoient.
Deux éléments qui se côtoient, comme vous le dites, ces deux éléments sont arrivés, ils ne se sont pas livrés des palabres.
Non, bien au contraire, puisque les brassages entre justement les éléments d'origine Abrem qui se sont installés à Accra, Dieu surtout, et les Gbourou-Gbourou ont donné un peuple nouveau qui est les Oborou. Mais par la suite, il y a des lignages qui sont venus d'un peu partout de la zone Akan-Lagunaire et même du pays Baoulé. Par exemple, si vous prenez le village de Passe, la racine c'est Passe, Akpa, ça veut dire les Akpatifouais qu'on trouve dans la région de Tiassalé et puis dans la région de Tabo qui se sont installés à Passe. Maintenant, vous avez des familles d'origine ébriée qui se sont installées en pays Adjoukrou, qui ont fait souche en pays Adjoukrou. Vous avez des familles d'origine Aïzi qui se sont installées en pays Adjoukrou et qui ont fait souche en pays Adjoukrou. Je vous ai dit que des familles d'origine Ewotile dans la zone de Toukpa aussi se sont intégrées et ont fait souche en pays Adjoukrou. Il y a des familles d'origine Abé qui se sont installées en pays Adjoukrou et qui ont fait souche en pays Adjoukrou. Et c'est pour ça qu'il y a une de mes étudiantes, elle a fait à l'époque un mémoire de maîtrise sur les lignages de Dibrumou. Je lui ai dit, tu fais une histoire des lignages de Dibrumou. Et mais quand on fait, même pour Dibrumou simplement, on se rend compte que les familles sont de différentes origines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes étudiants qui font des thèses ou des masters sur l'histoire des peuples, je leur ai dit, pour faire une bonne histoire du peuplement, c'est les lignages qu'il faut examiner. N'allez pas dans un village et puis demander, mais vos ancêtres viennent d'où? Sinon, c'est l'élément dominant, le groupe dominant qui va donner sa version et puis vous ne serez pas satisfait. Voilà, c'est le groupe dominant qui va donner sa version. Comme on le voit dans le cas de l'histoire des Baoulé, là, le groupe dominant, c'est celui venu avec la reine Ablapoukou. Or, et tous ne sont pas venus avec elle. Donc, il faut faire l'histoire des lignages. Et dans le cas des lignages, on le voit, les lignages sont de différentes. Il y a des lignages qui sont venus du pays Ébré, nos ancêtres sont venus du pays Ébré. Il y a d'autres qui sont venus du pays Aïzi, qui se sont installés. Il y a même des éléments qui sont venus du pays Avikam. Donc, tous les groupes lagunaires de la zone et les Baoulé ont laissé des lignages qui se sont installés en pays Adjoukrou. Et donc, ils sont devenus des Adjoukrou par l'intégration dans un même espace, un même partage de langue, qui est le Modjoukrou, un même partage de l'espace, qui est le Lodjoukrou. Et c'est ainsi que aujourd'hui, par exemple, ils ont deux espaces, deux confédérations. Voilà, ils ont deux confédérations militaires. Voilà, il y a la confédération Bouburi, et puis vous avez la confédération Dibrim. Voilà, de Dibrimou, et puis... Ce sont des villages qui se sont mis ensemble. Mais les villages sont autonomes, mais pour dire qu'en cas de guerre, là, voilà notre coalition. Voilà. Les autres aussi, les Bouburu aussi. En cas de guerre, voilà notre coalition. Mais par exemple, le village de Bonn est un des villages les plus anciens du pays. Du coup, ça, tout le monde le reconnaît, le village de Bonn.
Le village de Bonn, en allant à Kaka, en allant à Branyamiambo, à Brako, Bonn. est là. Bon, un joli village.
Tu n'as rien à voir avec la capitale fédérale de l'Allemagne, puisque la capitale fédérale de l'Allemagne, c'est Bonn. Voilà. Mais je crois que maintenant, ils ont changé. Je crois que Berlin est devenue la capitale fédérale.
Et quand moi, j'ai appelé pour la première fois un pays Odjoukourou, Bonn, j'ai pensé, comme vous venez de l'expliquer, je me suis dit, ah, comment les Allemands sont en Côte d'Ivoire, ils ont leur village. Bien, alors ça, c'est pour rire un peu. Nous allons évoluer. Et l'histoire des Odjoukourou est une histoire, je dirais, pas compliqué, mais une histoire qui peut être un peu confuse.
Non, elle n'est pas confuse. Si simplement on comprend que différents lignages sont de différentes extractions. Des lignages venus du pays Haïti, des lignages venus du pays Avikam, des lignages venus du pays Abidji, des lignages venus du pays Abé, des lignages venus du pays Ébrié, des lignages d'origine Kourou Dida, comme les Gourbrou. Les Gourbrou qu'on trouve en pays Adjoukourou, mais on les trouve aussi en pays Abé et en pays Abidji. Et aussi même en pays Haïti. Et maintenant, les groupes d'origine Abrem, notamment de même extraction que les Aladjans. Et c'est toutes ces familles-là qui se sont rassemblées sur ce territoire et qui ont fini par former un peuple qui est le peuple Odjoukourou. Ça, c'est un fait important. Mais pour comprendre, il faut comprendre, c'est comme si ces différents éléments qui se sont brassés et qui ont donné le résultat qu'on voit qui est le peuple Odjoukourou.
Les villages Odjoukourou ont connu un développement très rapide. Hein?
Justement, parce que, comme je l'ai dit, c'était des gens qui étaient dynamiques. Et surtout, quand tu dois célébrer l'Ebeb, c'est-à-dire la fête de l'homme riche, tu vas nourrir le village pendant une semaine. C'est-à-dire, tu vas les nourrir. Matin, tu vas les donner à manger. À midi, tu vas les donner à manger. Le soir, tu vas les donner à manger et à boire. C'est pas seulement manger, tu les donnes à manger et à boire. Tout le lignage était impliqué. La famille maternelle est impliquée. Parce que chez les Odjoukourou, les deux aspects du lignage sont éminemment prises en compte. La lignée paternelle comme la lignée maternelle sont prises en compte. C'est important. Pour eux, c'est très important. C'est pris en compte. Mais pour le faire, il faut être riche. Et donc, ce qui faisait qu'à cause de la fête de l'Ebeb, là, tout le monde veut être riche. Et tout le monde travaille pour l'être. Et en tout cas, pour ça, les Odjoukourou ont beaucoup travaillé. Et encore aujourd'hui, leur région reste une région très dynamique. Vous remarquerez, par exemple, qu'à Touba, la SAPH. Bon, je ne veux pas faire de publicité. Ce n'est pas la publicité. Mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de plantations d'EVA qui se font dans la région. Et il y a les plantations villageoises qui sont importantes. Et les plantations villageoises qui sont importantes. C'est vrai, quelquefois, les paysans sont quelquefois dessus un peu par rapport à la fluctuation des cours de ces spéculations agricoles. Mais c'est une région qui demeure vraiment une région qui est attrayante, qui est riche, dont la terre demeure très fertile. Et vraiment, c'est une région où aussi, vraiment, on est un peu décidé, on peut s'enrichir. Et on peut s'enrichir honnêtement, c'est très important.
Il est fait des générations, c'est presque au même moment dans tous les villages?
Non, ce n'est pas totalement, c'est dans la même période, mais ce n'est pas au même moment. Si par exemple, je ne sais pas moi, un village qu'on passe en train de célébrer le lot, cela ne veut pas dire que le même jour là, Kosrou ou Osrou va faire ça le même jour, mais c'est dans une même période, en tout cas c'est dans une même période que cela est fait. Et puis, c'est un rituel tellement important puisque ça permet aux jeunes de passer de la phase d'adolescent à la phase adulte. Voilà, c'est très important parce que chez eux, si tu n'as pas fait cette initiation, tu peux pas prendre la parole en public. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là reçoivent une armature morale, une armature politique. Et on leur dit comment est-ce qu'en pays Odjoukourou, on prend la parole, comment on parle. On leur parlera un peu de l'histoire du village et on leur parlera des coutumes, des pratiques coutumières. Si tu n'as pas fait cela, on estime que tu es un peu comme un fruit qui n'est pas mûr. Dans ce cas-là, puisque tu ne connais pas les pratiques, tu peux pas prendre la parole au village. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est pour eux, c'est un rite important. Par exemple, vous remarquerez, les anciens qui ont fait l'Ebeb. D'ailleurs, je ne sais pas si ça continue, mais anciennement, si quelqu'un est d'origine servile, c'est-à-dire si ses ancêtres, il descend en ligne des gens qui étaient des captifs, il ne peut pas célébrer l'Ebeb. Ce sont ceux qu'on considère d'extraction noble, là. C'est ceux-là qui célèbrent l'Ebeb. Par exemple, chez eux, le mot Adou signifie l'esclave. Le mot Adou, là, ça veut dire esclave. Donc, si toi, tu descends des Adou, là, toi, tu ne peux pas. Malheureusement, mon nom est très proche de ça. Mais Adouche et les autres, quand ça veut dire autre chose, tu ne peux pas faire l'ébeb. Et celui qui a célébré l'ébeb, lui, quand il parle en public, il n'est pas obligé de se tenir debout. Sinon, quand tu parles en public, tu es obligé de te tenir debout et de faire comme ce que les Akans font là. Tu mets les pieds au niveau des sandales, tu n'entres pas totalement les pieds dans les sandales et puis tu découvres ta poitrine quand tu es un homme pour parler. Voilà, c'est comme ça.
Ça, c'est une éducation qu'on devrait toujours garder.
Oui, mais c'est une éducation, c'est-à-dire que tu te montres dans une disposition d'humilité pour t'adresser à la foule, aux gens qui sont là. Voilà, donc c'est dans une disposition d'humilité. C'est-à-dire que tu ne mets pas entièrement la sandale, parce que la sandale aussi, c'était un des symboles de la royauté. Ah oui, chez beaucoup de, chez les peuples akans, ils appelaient ça, c'est pour le roi, la sandale, on appelait ça un paboa kessé, c'est-à-dire la grande sandale. D'autres groupes même vont très loin, comme chez les fonds, les gens du royaume d'Agbomé, de Dahomey. Eux, personne ne portait des sandales, sauf le roi seul qui portait des sandales. Donc vous voyez que ça peut aller très loin. Et c'est ainsi que chez les Ojukru, comme chez beaucoup d'autres akans, tu parles là. Tu te mets dans des dispositions pour dire que tu es bien éduqué, tu es bien élevé, tu n'es pas impoli, tu te mets pas dans une position de quelqu'un d'orgueilleux, mais tu te mets dans une position d'humilité pour t'adresser à la foule. Mais celui qui a célébré l'ébeb, c'est un ancien. Lui, il peut rester assis pour parler. Il a célébré l'ébeb. Et ce rite-là lui donne droit à rester assis pour parler à la foule.
Et l'héritage revient à qui, un pays Ojukru?
Bon, chez eux, aussi bien du côté paternel que du côté maternel, il y a la circulation de l'héritage. C'est ce qui est intéressant pour les Ojukru. Et ils ont su vraiment intégrer les deux modes. Mais par exemple, je sais que quand on célèbre l'ébeb, c'est surtout les parents maternels qui contribuent au financement. Mais les parents paternels aident. Ils aident. Voilà, donc c'est important.
Professeur, les colons ont joué un grand rôle à Dabou. Ils ont même créé beaucoup de choses là, vous avez dit tout à l'heure. Les populations très tôt ont compris l'importance du rôle que les colons les aidaient à avoir. Ils ont travaillé et aujourd'hui, les villages Ojukru sont des villages importants et bien construits. Alors, qu'est-ce que les colons a fait exactement à Dabou?
Mais c'est parce que Dabou était un endroit où il y avait un fort. Or, dans les forts, à quoi servaient les forts? Les forts jouaient deux rôles. C'était des entrepôts. Quand les marchandises arrivent de l'Europe, les compagnies les stockent dans le fort. Et les marchandises qu'ils achètent auprès des marchands africains, ils les stockent dans le fort. Les marchandises européennes sont vendues aux Africains et les marchandises africaines sont exportées. Les navires les prennent et vont en Europe. Donc, Dabou est devenu un pôle attractif. Alors que, en fait, quand on parle des gros villages anciens, on ne cite même pas Dabou. Mais du fait de la présence européenne et de la dynamique du commerce, Dabou est devenu un pôle important. Et donc, il a attiré des gens venus d'un peu partout. Des Zma et surtout beaucoup de malinqués qui sont venus dans la zone. À Dabou, il y a beaucoup de malinqués. Voilà, parce que c'était une zone attractive. Voilà, c'était une zone attractive. C'était une zone aussi où les Ojukru qui faisaient leur huile de palme venaient vendre cette huile de palme à Dabou. Donc, ce qui fait que Dabou est devenu vraiment un lieu attractif, un pôle commercial. Moi, j'appelle cela un pôle commercial. Et donc, c'est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, les villages Ojukru restent dynamiques parce que les cadres Ojukru sont très attachés à leur village. C'est des gens qui régulièrement vont dans leur village. Et si tu es un cadre, que tu n'as pas bâti une villa dans ton village, tu demeures toujours la risée des gens. On va dire, mais celui-là, c'est un grand cadre. Il n'a même pas une case au village. Donc, ce qui fait que tout le monde cherche à bâtir une maison. En tout cas, un bon Ojukru cherche à bâtir une belle maison chez lui au village. Ça, c'est vraiment...
Ce que j'ai constaté, c'est que les cadres Ojukru construisent leur plus belle maison dans leur village.
Mais absolument. Le village dont je voulais me souvenir, c'est Orgbaf. Voilà, Orgbaf, mais il y a des éléments d'origine Goua, Bato, qui se sont installés aussi à Orgbaf. Et vous constatez que justement, les villages Ojukru, mais sont de grands villages, c'est des petites villes. C'est de, véritablement de petites villes. C'est pas...
L'exemple de Dibrimou.
Voilà, comme Dibrimou, c'est des villes. En fait, c'est des villes de taille moyenne, mais c'est des villes.
J'ajouterais Kosrou.
C'est la même chose. Et vous remarquerez que là-bas, toutes les maisons sont bâties en dur. Et comme c'est des villages, les gens sont dynamiques, mais Dieu merci pour la plupart des villages, ils ont l'eau, ils ont l'adduction d'eau, ils ont l'électricité. Donc vraiment, c'est des villages modernes. Moi, j'appelle ça des villages modernes.
J'ajoute Lopo. Évidemment, j'en oublie, hein, parce que j'ai visité beaucoup les villages Ojukru. Les cadres ont fait un travail énorme. Quand vous arrivez, qu'on vous loge, vous vous croirez à Abidjan, dans un village, et ça, c'est du bon travail. Je vous remercie vraiment d'avoir eu cette idée de les féliciter. Je crois qu'ils nous ont écoutés. Ils vont continuer de travailler davantage.
En fait, ils ont suivi ce que leurs parents ont fait. Parce que leurs parents qui se sont devenus riches du fait du commerce, de l'huile, etc. Eux-mêmes, ils construisaient des maisons en dur. Ce qu'au Ghana, on appelle ébronçant, là, c'est-à-dire les maisons à étage. Là. Il y a, quand vous allez dans les villages, du coup, vous constatez qu'il y a des maisons à étage. Ceux dont les parents se sont enrichis par ce commerce qui se faisait à Dabou, le commerce de l'huile, etc. Ils ont commencé, ils ont construit ces maisons en dur, ces maisons à étage. Et donc, les générations qui ont suivi avec la Côte d'Ivoire indépendante, etc., les cadres n'ont fait que poursuivre ce que leurs prédécesseurs, les anciens ont fait. Voilà, donc c'est bien d'imiter ce que les anciens ont fait. Dieu merci, c'est ce que les cadres ont fait. Mais il y a ceux qui ont montré le chemin. Ceux qui se sont enrichis du fait avec le commerce, avec l'huile de palme, etc. Là. C'est eux qui ont montré le chemin, c'est ce que je voudrais dire.
Merci beaucoup, professeur Alou Kwame René. Je vous ai pris assez de temps. Je ne dis pas que vous êtes fatigué. Vous m'avez dit, s'il y a une autre émission, je suis prêt encore à la réaliser. Merci infiniment et à bientôt.
Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffi et Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.